Bonsoir à toutes et à tous, et c'est sur la musique de The Pox, donc qui a commencé un petit peu en avance. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, vous écoutez Radio Campus, et c'est Quoi de Neuf Doc, l'émission de jeunes chercheurs de Clermont-Ferrand. À l'animation, c'est moi-même, Olivier Carvin, doctorant en économie, et autour de moi, mes fidèles chroniqueurs. Aujourd'hui, dans un premier temps, Arnaud Persson, doctorant en mathématiques et amateur de jeux de mots pour sa chronique Vertige mathématique, nous parlera de l'écoulement des fluides, tout un programme. Alors, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu la thématique de ta chronique, mais bon, je te fais confiance, j'espère que tu ne vas pas déborder. Hein, déborder, fluide, vous l'avez.
Voilà. Bien vu.
Puis, vous entendrez Jules Barthélémy, doctorant en droit public, qui, dans sa chronique Europolis, nous parle chaque mois du système politique d'un pays européen, et ce soir, il parlera de l'Irlande. Ensuite, nous passerons 8 minutes, voire un peu plus de 8 minutes, avec Mehdi Escurier, doctorant en géographie sociale, pour qu'il nous parle de sa thèse sur l'évolution du rapport à l'espace des personnes en situation de handicap. Enfin, comme à chaque émission, pour conclure, vous connaîtrez tous les bons plans sortis pour les jours et semaines à venir grâce à l'agendoc qui a été concocté par Marine Dor, docteur en biologie. À la technique, c'est d'ailleurs Marine, accompagnée de Quentin Rodriguez, son fidèle assistant, ou plutôt l'inverse actuellement, doctorant en philosophie des sciences. Et dès à présent, je laisse donc la parole à notre premier chroniqueur, Arnaud.
L'intégrale de f de x, c'est égal à
l'intégrale Vertige. De x. Mathématiques.
Alors, chers auditeurs, bonjour. Si je vous demande quel est le lien entre une coulée de lave, un siphon, la météo, les pelotons lors d'une course cycliste, l'écoulement d'une rivière, la circulation du sang dans nos veines, la forme des nuages, le vol en V des oiseaux. Bref, quel est le lien entre tous ces phénomènes? À première vue, aucun. Et pourtant, tous résultent du mouvement de fluide et tous s'expliquent à partir d'une même équation. Je vous propose de regarder ça d'un peu plus près. Alors, un fluide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas solide, c'est-à-dire tout ce qui peut changer de forme facilement quand il est mis en mouvement. C'est-à-dire de l'air, de l'eau, encore de l'huile, de la lave, etc. Alors, pour comprendre ce qui relie ces phénomènes entre eux, il va falloir se tourner vers la physique et étudier un fluide. Imaginez, par exemple, que vous vouliez décrire le mouvement que fait votre café quand vous le remuez avec votre cuillère. Deux choix s'offrent à vous. Le premier est de se plonger à l'intérieur du fluide, au cœur même de la matière, qui est constituée de milliards et de milliards de molécules, et d'étudier simultanément le mouvement de ces particules. Ce qui va vous donner des milliards d'équations, dans le meilleur des cas. Vous l'aurez deviné, ceci sera beaucoup trop compliqué. La seconde est au contraire de prendre du recul et de s'intéresser seulement à la vitesse qu'aurait une particule de ce fluide en chaque point de l'espace au cours du temps. C'est ce que l'on appelle un champ de vitesse. Pour vous donner une idée, la carte que l'on vous présente à la télé, quand vous regardez la météo, a des flèches, et ces flèches représentent les mouvements d'air. Ce n'est rien d'autre qu'un champ de vecteurs de l'atmosphère. En tous les cas, c'est cette seconde approche qui a permis aux Français Navier et aux Britanniques Stokes d'établir au XIXe siècle la célèbre équation qui porte leur nom. Alors, si vous n'êtes pas spécialiste, la forme de cette équation peut faire un peu peur. Pourtant, elle est simplement un cas particulier de la célèbre équation de Newton, qui dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Utilisée pratiquement tout le temps en mécanique classique pour modéliser, par exemple, la chute d'une pomme qui tombe de l'arbre. Mais comme on parle, dans notre cas, de champ de vitesse d'un fluide, la forme de l'accélération est un petit peu plus compliquée que pour la pomme qui tombe de l'arbre, et les formes qui agissent sur ces fluides, et les forces pardon, qui agissent sur ces fluides, sont d'une autre nature. Il s'agit non plus il ne s'agit plus seulement de la gravité, mais des forces de pression et des forces de visqueuse. Alors les forces de pression, ce sont celles qui viennent du fait qu'un petit morceau de fluide se fait pousser par tout le reste du fluide qui l'entoure. Et les forces visqueuses, ce sont l'équivalent des forces de frottement de l'air sur la pomme. Quand un morceau de fluide glisse sur un autre, il y a un frottement qui le freine et qui est d'autant plus important que le fluide est visqueux. Par exemple, les forces visqueuses seront plus importantes sur du pétrole ou du miel que sur de l'eau. Enfin bref, ce qui est important, c'est que cette fameuse équation de Navier-Stokes décrit mathématiquement l'évolution d'un fluide dans le temps. Maintenant que cette équation est écrite, il faut la résoudre. Et c'est là qu'il y a un pépin. Car en fait, personne aujourd'hui ne sait résoudre, d'un point de vue mathématique, cette équation dans l'espace. Même lieu, personne ne sait si elle admet des solutions pour toute condition initiale. Ce problème est un des fameux problèmes du millénaire. Il est promis $1 million, sûrement en liquide, à qui pourrait résoudre rigoureusement cette équation. Vous l'aurez compris, d'un point de vue mathématique, l'équation de Navier-Stokes, c'est du solide. Mais alors, d'où vient la complexité de cette équation ? Sans rentrer dans les détails mathématiques, sa difficulté provient de sa non-linéarité. Physiquement, cela se traduit par la grande diversité des phénomènes qu'elle permet de décrire. Vous imaginez bien que le mouvement régulier d'une coulée de lave est très différent des volutes chaotiques que peut avoir la fumée de cigarette. Pourtant, ces deux phénomènes s'expliquent de la même manière à partir de la même équation. Même si on ne sait pas encore dire mathématiquement beaucoup de choses, on peut néanmoins simuler numériquement ces solutions. C'est-à-dire qu'on va faire des approximations numériques qui vont approcher les solutions de l'équation de Navier-Stokes. Et donc se servir de ces approximations pour résoudre de nombreux problèmes. Par exemple, c'est cette équation qui décrit les mouvements de l'air, de l'atmosphère, et qui est utilisée tous les jours pour faire les prévisions météo. Elle est aussi très utile en aérodynamique et permet d'optimiser la forme des ailes des avions ou des voitures. C'est encore elle qui justifie pourquoi les oiseaux volent en V, ou qui montre qu'un cycliste économise 30% d'énergie s'il roule dans un peloton plutôt que tout seul. On s'en sert aussi pour faire des effets spéciaux, augmenter le réalisme de certains jeux vidéo. Elle a notamment permis de fabriquer le siphon dans lequel sombre le Titanic. Elle permet encore de modéliser la circulation de l'air dans nos poumons, le sang dans nos veines, et a donc beaucoup d'applications en médecine. De la même manière, elle est aussi utilisée pour modéliser le trafic routier, ou en agriculture, le mouvement des graines de blé dans un semoir. Bref, vous l'aurez compris, cette équation est une des plus utilisées de nos jours. Et pourtant, on ne connaît encore que très peu de choses à son sujet. On pourrait alors se demander si des équations dont les programmes informatiques calculent des solutions approchées présentent encore un réel intérêt pour les mathématiciens et les physiciens. Le problème, c'est que l'on n'est pas sûr que ce qui est calculé aujourd'hui est réellement une solution approchée, et si le résultat est bien fidèle à la réalité. Mais ceci ne nous empêche pas de l'utiliser pour autant. Il faut se dire que les prévisions obtenues à partir de cette équation et utilisées pour prendre des décisions, parfois importantes, peuvent s'avérer fausses à tout instant. Donc aucune preuve mathématique n'aura vu le jour. Voilà, l'équation de Navier-Stokes a encore bien des choses à nous révéler. Il faudra sans doute un sacré fluide de matheux pour en extriquer les secrets.
à ta porte, infinité de destins en posant, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera.
Et vous venez d'entendre Le vent l'emportera du groupe Noir Désir, donc très lié à la thématique de la chronique d'Arnaud, bien choisi. Aucun lien avec la prochaine intervention, en revanche, puisque ces chroniques, non, ce n'est pas du vent. Je parle bien entendu de Jules Barthélémy qui nous parle de l'Irlande pour sa chronique Europolis.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Europolis.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce mois-ci, nous continuons notre tour d'Europe en nous posant sur les vertes terres d'Irlande. L'Irlande, R en irlandais, n'est pas qu'un pays de bière et de rugby, c'est également une république parlementaire chargée d'histoire. L'Irlande, vous le savez, fut longtemps une île totalement sous domination britannique, particulièrement anglaise, et le théâtre, à ce titre, de sanglantes répressions. Mais en 1918, débute la révolution irlandaise conduite par les indépendantistes du Sinn Féin, nous-mêmes en français, qui proclame donc l'indépendance en 1918, premier acte d'une guerre qui durera 3 ans. Le 6 décembre 1921, le traité de Londres est conclu et l'Irlande devient un État indépendant, sauf évidemment une partie de l'Ulster qui demeure britannique, c'est l'Irlande du Nord. Cet accord n'a donc pas satisfait tous les indépendantistes, ce qui déboucha sur une guerre civile de 2 ans et de nombreux rebondissements politiques et conflits armés pendant des décennies. Ce qu'il faut retenir du système politique irlandais, c'est avant tout de même une constitution adoptée le 1er juillet 1937 qui proclame l'ère une république parlementaire. Le président ne dispose donc pas d'un rôle majeur, on le voit plutôt dans des rôles officiels. Mais il est tout de même élu au suffrage universel direct à 2 tours. Le pouvoir réglementaire est réellement détenu en Irlande par le chef du gouvernement. Je tiens à m'excuser auprès de tous les Irlandais pour ce qui va suivre. Donc, par le chef du gouvernement, le Taoiseach, qui découle des majorités à la chambre basse, le Dáil Éireann, qui compose avec le Seanad et le président les 3 composantes de l'Oireachtas, ou Achtas, le Parlement. Le Seanad est une chambre haute composée de représentants, soit élus par les parlementaires et élus locaux, soit nommés par le Taoiseach, ou encore élus dans des circonscriptions universitaires. De toute manière, c'est le Dáil Éireann qui compte vraiment dans ce parlement irlandais et peut voter des motions de censure contre le gouvernement. Les députés sont élus selon un scrutin proportionnel à vote unique transférable. Un système de classement préférentiel de plusieurs candidats dans 40 circonscriptions électorales pour un total de 157 sièges, plus le président de l'Assemblée, le Seán Comáhaire, qui est automatiquement réélu. Le scrutin proportionnel à vote unique transférable permet aux citoyens de choisir qui sera élu sur les listes des partis. Je m'arrête là car on pourrait vite se croire dans vertige mathématique si j'allais plus dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les majorités parlementaires sont souvent composées de plusieurs partis politiques. Quels sont-ils ? Eh bien, on trouve aujourd'hui 8 partis représentés au Dáil Éireann, sans compter près de 19 élus indépendants, soit plus de 10% des députés. Au nord, aux petites formations, on trouve 3 partis de gauche, l'Action des travailleurs et des chômeurs, Workers and Unemployed Action, le parti Solidarité, les gens avant les profits, Solidarité People Before Profit, et les modérés sociaux-démocrates. À droite, on trouve le Renoua, un mouvement conservateur libéral. J'en viens maintenant aux 4 principales formations politiques d'Irlande, dont les scores ont beaucoup varié et varient encore beaucoup aujourd'hui. Pour commencer, un parti travailliste classique sur une ligne centriste pré-corbinienne. On trouve toujours sur une ligne modérée le Fianna Fáil, soldat de la destinée, en irlandais, parti né d'une scission du Sinn Féin des suites de l'accord de Londres en 1921. C'est ce parti qui est à l'origine de l'actuelle constitution. Aujourd'hui, c'est un parti libéral de centre-droit. Ensuite, plus à droite, on trouve le parti de l'actuel Taoiseach, le Fine Gael, clan des Gaëls ou clan des Celtes, fondé en 1948. Toujours libéral, mais plus conservateur. Ce parti est à la pointe des combats d'arrière-garde, souvent accompagné du Fianna Fáil. Enfin, à gauche, existe toujours un Sinn Féin. Ce n'est pas celui de l'indépendance, mais il s'en revendique depuis sa création en 1970. Le passé de ce mouvement est sulfureux en ce qu'il fut longtemps lié à des mouvances armées, en Irlande du Nord notamment, jusqu'en 2005. Le système politique irlandais, en tout cas, permet une représentation subtile de la population et cette représentation est donc très variée. Mais cela ne conduit pas forcément en réalité à une modération apaisante ou à un progressisme novateur. En effet, au-delà du passé de la Révolution irlandaise, toujours importante à prendre en compte pour observer les partis politiques, il se trouve deux sujets éminemment révélateurs des excès et blocages irlandais, Google et la religion. Pour Google, les partis dominants de ce petit État ont fait le choix d'une fiscalité très avantageuse au prix d'un manque de moyens publics et donc de fortes inégalités. Joli coup ou coup de folie, ce choix est en tout cas sans réserve et il semble difficile, de par l'importance de Google en Irlande, qu'un gouvernement revienne dessus sans que cela ne suscite quelque forte résistance. Ensuite, la religion est un élément majeur en Irlande, très majoritairement catholique. L'emprise de la religion sur les politiques publiques se répercute dans plusieurs domaines et fait de cet État, qui a une politique économique très libérale, également l'un des plus conservateurs d'Europe de l'Ouest pour ce qui est des questions sociétales. Pour finir ce tableau du système et des forces politiques en présence sur l'île, il convient de ne pas faire l'impasse sur les citoyens irlandais eux-mêmes, qui doivent être consultés à chaque modification de leur constitution et avant chaque ratification d'un traité international. À plusieurs reprises, ces référendums obligatoires ont permis de régler des questions telles que l'IVG il y a peu, mais a pu conduire à des situations assez étonnantes. Pour exemple, les Irlandais peuvent parfois rejeter la ratification d'un traité avant qu'une ligne ne soit modifiée et qu'un nouveau référendum soit organisé jusqu'à ce que la réponse choisie soit la bonne. Donc, avec une histoire marquée par la guerre civile, la religion très présente et la présence d'un des géants du numérique, l'Irlande présente une nature politique très singulière et qui n'est pas à une contradiction près.
Alors merci Jules pour cette chronique qui était très intéressante. Je vois que tu as bien galéré sur les noms des parlements, des partis politiques irlandais. Alors moi j'ai hâte que tu nous parles du système politique de Finlande ou celui de l'Islande. je pense que tu vas te régaler.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beams. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Fire. I smell the spring
on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town, I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Et vous venez d'entendre Dirty Old Town interprété par le groupe The Pogues, groupe irlandais par excellence. Pour le 8 minutes avec, nous restons dans le thème de la ville, j'imagine, plus ou moins, avec Mehdi Escurier.
Huit minutes avec.
Alors Mehdi, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Donc comme je l'ai annoncé en début d'émission, tu es doctorant en géographie sociale et ta thèse parle de l'évolution du rapport à l'espace des personnes en situation de handicap. Alors avant de rentrer dans le détail de ton sujet de thèse, est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu de ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire une thèse en géographie ici à Clermont ?
Alors, en ce qui concerne mon parcours, j'ai toujours été vraiment passionné par la géographie. Je suis un local, je suis de Clermont et j'ai jamais eu à bouger pour faire mes études. J'ai toujours trouvé ce qui me convenait ici à Clermont. Donc voilà pourquoi je fais ma thèse à Clermont. J'aurais pu la faire ailleurs, mais j'ai choisi de rester ici dans ma ville. La géographie m'a toujours plu. Le sujet du handicap comme étant un sujet de thèse, ça c'est un petit peu plus original. C'est à la suite d'une expérience que j'ai eue en master. Il me semble que c'était en master première année, où j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un schéma d'accessibilité. Donc là, c'était quelque chose qui était purement opérationnel, en géographie, qu'on pourrait qualifier de géographie plutôt urbaine. Je devais réaliser le schéma d'accessibilité des bâtiments publics d'une commune dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est la commune de Courpierre. Et à l'issue de ce stage, je me suis rendu compte que les personnes en situation de handicap, en France, le pays des droits de l'homme, était quand même leur situation était quand même assez problématique. C'est des personnes qui sont exclues socialement, mais ça se manifeste aussi spatialement, car ces personnes-là, elles ne peuvent pas accéder au lieu qu'elles souhaitent parce qu'il y a une marche, parce que le bâti n'est pas accessible.
D'accord. Et donc là, tu es maintenant en thèse CIFRE avec une association, donc c'est un peu particulier, déjà une thèse CIFRE avec une association donc qui s'appelle l'ADAPT. Tu peux nous décrire un peu justement les objectifs de cette association ?
Alors l'association l'ADAPT, c'est une association nationale qui s'intitule l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Donc c'est une association qui accompagne des personnes en situation de handicap vers l'emploi et vers l'insertion sociale. Moi, je suis en CIFRE avec l'ADAPT du Puy-de-Dôme. La petite particularité de l'ADAPT du Puy-de-Dôme, enfin, ce qu'il faut savoir avant, c'est que l'association l'ADAPT accompagne des personnes qui ont tous les types, entre guillemets, de handicap. La particularité pour l'ADAPT du Puy-de-Dôme, c'est que les personnes accompagnées sont des personnes qui ont eu des lésions cérébrales acquises. Donc une lésion cérébrale, c'est une destruction des tissus du cerveau qui peut intervenir à la suite d'un accident vasculaire cérébral, d'un accident de la route, en gros d'un traumatisme crânien, en général. Il y a plusieurs cas de figure. Et ces lésions cérébrales, on les qualifie d'acquises parce qu'elles interviennent au cours de la vie de la personne, suite à quelque chose, un événement, un accident. Et du coup, les personnes qui sont accompagnées par l'ADAPT du Puy-de-Dôme ont pour particularité de ne pas être en situation de handicap depuis la naissance. Oui. Donc ça répond aussi à une question, je pense, que tu allais me poser sur le type de public accueilli par l'association.
Effectivement, donc c'est très bien, tu anticipes.
J'ai pas fait exprès en plus, mais pour répondre à la question que tu m'as réellement posée, l'association l'ADAPT, elle accompagne ces personnes-là dans le Puy-de-Dôme à travers deux services principaux. C'est un ESAT, un établissement social d'aide par le travail, qui du coup accompagne les personnes vers l'emploi. La particularité de l'ESAT, de l'ADAPT, c'est que c'est un ESAT hors mur, c'est-à-dire que les personnes, elles travaillent, elles sont salariées de l'ADAPT en tant que salariées de l'ESAT, mais elles travaillent dans des entreprises partenaires. Ça peut être Auchan, Ikea, etc. Ça, c'est le premier service. Et le second, c'est un SAMSA, Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Et ce SAMSA propose plutôt un accompagnement au domicile de la personne. Donc quand je dis accompagnement, c'est accompagnement médico-social, c'est-à-dire médical, psychologique, neuropsychologique, ergothérapeutique et social, quoi.
D'accord. Alors c'est vrai que là, pour l'instant, jusqu'à présent, on a un peu du mal à comprendre comment est-ce que la géographie a un lien avec ce domaine, cette association. Donc est-ce que tu peux du coup maintenant nous parler un peu quel est ton rôle, toi, dans ton travail de recherche au sein de cette association ?
Alors, la lésion cérébrale, je vous en ai parlé. En fonction des individus et en fonction des lésions, elle entraîne des limitations fonctionnelles. C'est-à-dire que après un accident, une personne peut avoir ses fonctions motrices qui sont limitées. Ça peut être les fonctions motrices, les fonctions visuelles, mais dans le cas de la lésion cérébrale, c'est surtout les fonctions cognitives. C'est-à-dire que après une lésion cérébrale, une personne peut avoir des difficultés à organiser sa vie quotidienne, à se déplacer en autonomie, c'est-à-dire à planifier ses déplacements, à choisir la bonne ligne de bus pour aller au bon endroit. Et c'est là qu'intervient la géographie, entre guillemets. Mon approche, elle s'intègre là. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse au rapport à l'espace des personnes qui sont accompagnées par l'association. Quand je dis rapport à l'espace, je m'intéresse aux lieux que ces personnes-là fréquentent. J'essaye de recenser un petit peu tous les lieux que ces personnes fréquentent. Et je m'intéresse aussi à leurs déplacements. Le fait de m'intéresser à leurs déplacements, c'est pas anodin, parce que les limitations des fonctions cognitives qui sont liées à la lésion cérébrale, elles font que les déplacements chez ces personnes-là peuvent générer beaucoup d'angoisse et peuvent être appréhendés plus ou moins facilement. Donc moi, j'essaye de savoir quels moyens de transport les personnes utilisent pour aller d'un point A à un point B pour leur déplacement quotidien, mais surtout de savoir qu'est-ce que ces déplacements évoquent d'un point de vue émotionnel pour ces personnes. Dans l'objectif de comprendre, essayer de voir, ou du moins d'avoir des pistes par rapport à ça, essayer de voir si l'association, l'accompagnement de l'association modifie le rapport à l'espace des personnes, si l'accompagnement encourage les personnes à fréquenter plus de lieux, leur donne la possibilité de fréquenter plus de lieux, des lieux que ces personnes-là ne fréquentaient pas avant, et aussi essayer de savoir en quoi l'accompagnement redonne un petit peu confiance aux personnes sur leur déplacement, leur permet de se déplacer plus et aussi plus facilement.
Oui. Et donc pour ce recensement de lieux du coup qui dans lesquels ils se déplacent, comment est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais simplement un questionnaire ou est-ce que tu les suis à la trace pour voir où ils vont et quel chemin ils empruntent ? Comment est-ce que ça se passe ?
J'aurais pu faire de la filature, ça avait été envisagé, mais du coup j'ai laissé ça de côté.
Ah oui, réellement.
J'ai mis en place un genre d'outil que j'ai appelé les entretiens cartographiques, c'est-à-dire que je reçois les personnes dans mon bureau ou sinon je vais chez elles, et on crée des cartes ensemble sur un support informatique. Le but, à travers plusieurs questions, j'essaye de faire en sorte que ces personnes elles localisent ou qu'elles me disent des lieux qui concernent leur vie quotidienne. En gros, j'ai plusieurs thèmes. Je demande par exemple aux personnes de me dire des lieux qu'ils fréquentent dans le cadre de la relation avec leur famille, et ensuite on les localise. pour chacun des lieux localisés, je leur demande de me donner un petit peu ce qu'évoque le lieu pour les personnes. Est-ce que c'est un lieu qui évoque des bons souvenirs? Est-ce qu'il évoque pas forcément des bons souvenirs? Ça, c'est quelque chose que je fais, entre guillemets, en plus. C'était pas forcément obligé de faire ça pour essayer de mesurer l'évolution du rapport à l'espace. Mais c'est l'apport un peu de la géographie sociale. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir comment sont appréhendés ces lieux d'un point de vue sentimental. Est-ce que par rapport aux vies des personnes en situation de handicap qui sont parfois brisées par des accidents de la vie, entre guillemets, est-ce que ces personnes-là, elles attachent plus d'importance à certains lieux ou pas? C'est pour ça que je m'en place un peu aussi une approche sentimentale, pardon.
Oui, parce qu'on est parfois obligé de se rendre à certains lieux, mais qui n'ont pas... On y va parce qu'on est obligé, pas parce qu'on a une attache sentimentale positive vis-à-vis de ces lieux, effectivement.
Exactement. Certains lieux sont des lieux purement du quotidien, des lieux où il faut aller, et d'autres lieux sont un peu plus investis sentimentalement par la personne.
D'accord. Et donc, alors oui, tu as une question.
Je veux juste te dire, du coup, ta thèse, elle dépasse un petit peu la géographie. En fait, c'est fait même presque de la psychologie, un petit peu, avec ces gens-là. Ouais.
C'est vrai. C'est d'autant plus vrai qu'au début, j'ai eu peur un petit peu de céder vers le psychologisme, si j'ose dire, et de ne plus trop rester sur la géographie qui est ma discipline. Donc, finalement, non. Je me suis contenu. Déjà à la lecture des articles de psychologie, il faut s'accrocher. Je suis resté sur de la géographie, c'était un petit peu plus à
m'apporter. Un peu plus d'équations, non?
Mais c'est vrai que l'avantage de ce sujet de thèse et de cette discipline, c'est la pluridisciplinarité finalement. Je m'inspire de choses qui sont faites en psychologie, en sociologie, bien sûr en géographie, mais j'essaye de balayer un petit peu tout un champ qui recouvre le handicap. Ce que j'ai pas dit, mais c'est que je m'inspire aussi beaucoup de... Enfin, c'est pas que je m'inspire, mais j'apprends beaucoup de mes collègues à l'association avec qui je suis quasiment tous les jours, qui eux sont vraiment des professionnels du handicap. C'est des collègues moniteurs d'atelier, ergothérapeutes, psychologues, éducateurs spécialisés. Et j'apprends beaucoup déjà de leur pratique du handicap. Et tout ça me donne du grain à moudre pour mon travail de thèse.
D'accord. Et donc, on arrive un peu vers la fin. J'ai une dernière question. Du coup, est-ce que tu as déjà des résultats de cette évolution, le rapport à l'espace de ces personnes en situation de handicap?
Alors, qui dit évolution dit plusieurs recueils de données pour essayer de les mettre en perspective au cours du temps. Là, je viens juste de commencer ma deuxième année de thèse. Donc, j'ai fait un recueil de données pour une quinzaine de personnes sur finalement le rapport à l'espace, donc l'état des lieux que ces personnes la fréquentent et des déplacements qu'elles réalisent dans le présent. J'ai pas de résultats quant à l'évolution, mais j'ai des résultats par rapport à ça. Et je peux dire que finalement, les limitations fonctionnelles des personnes, leur situation de handicap, ça se retrouve dans leur rapport à l'espace. À la question « Donnez-moi des lieux que vous fréquentez dans le cadre de la relation avec vos amis », beaucoup m'ont dit « Ben, j'ai pas d'amis ». On voit que ces difficultés d'insertion sociale, cette problématique qui peut être liée au handicap, ressort de la carte. Et ça, c'est assez frappant.
Oui, c'est pas forcément uniquement des difficultés, disons, techniques de déplacement. C'est aussi, du coup, difficultés sociales.
C'est ça.
Ouais, c'est intéressant. Ouais. Très bien. Eh bien, merci, Mehdi, pour cette super interview.
Merci.
Et je te souhaite bon courage dans la continuité de ta thèse.
Merci, Olivier.
Si tu t'en vas un jour, tu tu oublieras. Si tu t'en vas, la source sera toujours grossière de fleurs. Les amours n'arrivent pas vers les beaux jours, iront toujours. Si tu t'en vas.
Si tu t'en vas, chanson de Léo Ferré, interprétée ici par le groupe Aquaserge. Alors avant de passer à l'agenda, on a terminé l'interview un peu rapidement, mais je crois, Mehdi, que tu avais une dernière information à nous faire passer.
Oui, j'ai une dernière petite information, ça concerne l'actualité. Déjà, premièrement scientifique, actuellement se tient le colloque Handicap et Inclusion, qui est à l'ESPE à Chamalières, donc c'était les deux derniers jours, mais ça se poursuit aussi jeudi et vendredi, donc demain et après-demain, n'hésitez pas à y aller. Et ensuite, la semaine prochaine commence la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et à ce titre, l'ADAPT du Puy-de-Dôme organise une conférence mercredi 22 sur l'emploi des femmes en situation de handicap. Et je vous invite à venir également, c'est au 15 avenue Léonard de Vinci à Clermont-Ferrand, au parc technologique Lapardieu.
Eh bien, merci Mehdi, tu anticipes très bien la prochaine chronique, hein, puisque Marine va nous proposer d'autres propositions de sortie pour le mois de novembre dans la chronique Agendoc.
L'agenda du doctorant, c'est l'Agendoc.
Donc bonsoir à tous. Donc qui dit novembre dit retour du froid, de la pluie et des soirées plaides. Mais pas que, alors un peu de courage et affronter le mauvais temps pour profiter d'un joli petit programme. Donc tout d'abord, pour se réchauffer un peu, demain c'est l'arrivée du Beaujolais nouveau, donc sortez votre costume d'œnologue et découvrez les nouvelles flagrances et saveurs du petit nouveau. Mais avant de le déguster, venez répondre à quelques questions pour faire partie du prochain épisode des Chercheurs se mettent à nu. Ce jeudi, Doctovergne et Astuscience organisent un petit casting à partir de 19h à la salle d'escalade B-Up. Nouveau domaine d'études, nouvelle personnalité et même un peu de voyage, j'en dis pas plus et vous laisse la surprise. Et si vous avez l'épisode 3 avec notre super mathématicien Arnaud, pas de panique, vous pouvez le retrouver sur les chaînes YouTube des deux associations. Et si vous voulez en savoir davantage, nous vous invitons le 5 décembre lors d'une cantine de quartier au pôle 22 bis à partir de midi. Ce week-end, c'est le 17e rendez-vous des carnets de voyage entre Polydôme et la coopérative de Mai. Vous pourrez vous évader à travers la rencontre de différents artistes voyageurs, l'exposition de carnets, les tables rondes ou encore la projection de films. Actuellement, le festival Musique Démesurée a pris place à Clermont. Vous pouvez donc jusqu'à dimanche explorer la richesse de la création musicale d'aujourd'hui. Il reste encore quelques concerts, alors dépêchez-vous. Et nous souhaitons la bienvenue aux petits nouveaux avec la rentrée du Collège des écoles doctorales qui aura lieu le 22 novembre de 10h à midi. Et restez à l'écoute car nous allons bientôt vous divulguer aussi la date du pot de rentrée de Doctovergne. Et en attendant cette soirée, vous pourrez également, toujours le 22 novembre à partir de 18h, profiter de l'afterwork Hippocampus à la Maison du Peuple. Concours de beer pong et découvertes musicales seront au programme. En parlant d'événements festifs et pour les nostalgies clermontois, le Gorman's Café a réouvert ses portes avec un nouveau concept de restauration et bar tapas. Venez vous remémorer vos folles soirées de jeunesse et c'est toujours à la même adresse. Et qui dit jeunesse dit également rebelle et rien de mieux que d'aller voir le groupe Trust le 23 novembre à la coopérative de mai. Et niveau expo, on en est où alors? Donc du 16 au 24 novembre, le centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand propose une programmation culturelle inédite autour de son histoire presque bicentenaire avec mémoire croisée de l'hôpital Sainte-Marie. Ce programme invite le grand public à découvrir les entrailles de Sainte-Marie dans des lieux forts en sens comme la chapelle de l'ancien hôpital général et la maison des sciences de l'homme. Et jusqu'au 22 décembre, l'exposition Dark Mathematics à la galerie In Extenso propose aux visiteurs une atmosphère faite de chiffres invisibles, dissimulés, mais pourtant bien présents dans plusieurs œuvres. Et le 75e anniversaire triste mais fort en émotion de la rafle du 25 novembre 1943 aura lieu du 22 au 25 novembre à travers Résistance et Résilience avec des conférences, débats et projections de films à l'école de droit et sur le site Carnot. Le 29 novembre, vous pourrez également assister à la conférence Infini Science de Jean-Louis Etienne sur les pôles témoins et acteurs du climat et vous pourrez également participer à la Marche mondiale pour le climat le 8 décembre. Et que diriez-vous de ne plus jeter, mais de donner une seconde vie à vos vieux objets cassés? Alors venez partager un moment convivial avec les bénévoles du Ripper Café le 25 novembre au 9 rue Sous les Augustins. Vieux objets ne veut pas dire moche et inactuel, c'est ce que le salon du vintage vous montrera le 1er et 2 décembre au Polydôme de Clermont-Ferrand. Accessoires, mobilier, vinyle et rétro gaming et plein d'autres choses seront au programme. Et qui dit approche de l'hiver dit également neige, Noël et tout ce qui va avec. Vous pourrez donc rechausser vos skis et enfiler vos combis pour l'ouverture le 1er décembre de la station Superbès. Et qui dit combi, ski, bonnet dit la fameuse marque au sapin Made in Clermont-Ferrand Picture. Et pour souffler ses 10 bougies, rendez-vous le 8 décembre à la Copé. Et afin de voir de magnifiques paysages, vous pourrez assister au festival du film de montagne avec Montagne en scène au Polydôme le 3 décembre. Au programme, films d'escalade, ski et alpinisme. Bon, c'est bien beau dans tout ça, mais il faut également penser aux cadeaux de Noël, car ça approche quand même petit à petit. Quoi de mieux alors que d'aller rencontrer des artisans et pourquoi pas le Père Noël tout en buvant un petit vin chaud au marché de Noël qui débutera le 23 novembre à la place de la Victoire. Et des cadeaux, il en faut pour tout le monde, donc c'est ce que propose l'Afterwork de Noël à la coopérative de mai le 6 décembre, avec une collecte de jeux et de jouets au profit des Restos du Cœur. En parlant de bonne action, les 7 et 8 décembre, ce sera également le Téléthon. Un don d'argent ou de votre temps peut paraître pas grand-chose, mais peut tout changer. Retrouvez toutes les informations sur le site du Téléthon. Et de notre côté, on vous donne également rendez-vous le 5 décembre pour le rendez-vous mensuel de Doctovergne, le Doctovert, qui a toujours lieu au Gavroche.
Cause I never let go, and I'm feeling so numb.